un moment d'histoire, une création de Abar et RDC avec l'appui du programme Bokundul.
Avec la fin de la session katangaise en janvier 1963 et les rétablissements de l'unité nationale au Congo, des tensions politiques vont rapidement refaire surface et s'intensifier à Léopoldville. Les gouvernements dirigés par le premier ministre Cyril Adula est désormais largement influencé par le groupe des Binza, un cercle de haut responsable d'une partie de l'élite politique congolaise, surtout les anciens collaborateurs de Patrice Lumumba, qui se trouvent proches des puissances occidentales. À mesure que les remaniements ministériels se succèdent, les nationalistes radicaux, anciens collaborateurs de Lumumba, qui prônent une rupture totale avec l'Occident, voient leur influence considérablement réduite au sein du pouvoir. Un événement va mettre la poudre au feu. Le 29 septembre 1963, le président Joseph Kasavubu décide de dissoudre le Parlement afin de mettre fin aux incessantes attaques de l'opposition nationaliste contre le gouvernement d'Adula. En réaction, les partis nationalistes clandestins s'organisent et optent pour la lutte armée comme moyen de conquête du pouvoir. C'est ainsi que le 3 octobre 1963, plusieurs partis d'opposition quittent Léopoldville et se réunissent à Brazzaville, République populaire du Congo, où ils vont créer un front commun, le Conseil national des libérations, CNL, sous la direction de Christophe Ngubuenye. Ce mouvement se fixe pour objectif une seconde indépendance, considérant que l'indépendance de 1960 n'a été qu'un simulacre de libération, laissant les pays sous une influence étrangère forte. Leur discours est radical. Il ne s'agit plus de combattre les anciens colonisateurs belges ou les Américains, mais plutôt ceux qu'ils accusent d'être leurs complices congolais. Les dirigeants de Léopoldville qualifiés des « valets de l'impérialisme », ces derniers sont surnommés PNP, Pene Pene Namundele, une expression qui signifie « proche du blanc ». En référence au Parti national du progrès PNP, souvent critiqué pour ses relations avec les anciens colons. La rupture est consommée entre les nationalistes radicaux et les modérés du mouvement national congolais MNC de Lumumba, creusant encore plus les divisions idéologiques au sein de la classe politique congolaise. Dès janvier 1964, les rébellions armées sont lancées et prennent une tournure concrète. Pierre Mulele, ancien ministre de l'Instruction publique sous Lumumba, ainsi que Théodore Benguila, prennent les maquis et déclenchent une insurrection paysanne de la province du Kwilu. Inspirée du modèle révolutionnaire marxiste, cette rébellion mobilise la jeunesse rurale formée à la guérilla dans le camp isolé en pleine forêt.
Nanobi, toza banani.
Leur idéologie repose sur des principes de justice sociale, d'égalité économique et d'anti-impérialisme. Pierre Mulele structura la rébellion en adoptant un modèle organisationnel révolutionnaire, inspiré du marxisme. Les recrutements s'opéraient principalement auprès de la jeunesse des villages, où le jeune âgé de 12 à 20 ans était envoyé dans le camp d'entraînement situé en plein forêt. Là, il recevait une formation idéologique basée sur des principes révolutionnaires exaltant le patriotisme, la justice sociale et les promesses d'un avenir prospère. Ces jeunes étaient ensuite formés aux tactiques des combats et des guérillas. Un élément destructif de la rébellion mouléliste, aussi appelée la rébellion Simba, était la forte imprégnation mystique et animiste. Les combattants croyaient en un pouvoir surnaturel, leur conféra une immunité contre les balles. Selon leur chaman, une potion magique leur permettait de se transformer en Simba, lion en Swahili, et de rendre inoffensifs les projectiles ennemis, les assimilant à des simples gouttes d'eau. Alors, cette croyance connue sous l'idéologie Mulele Mai sema la panique au sein des troupes loyalistes congolaises qui, face à des rebelles persuadés de leur invincibilité, refusaient souvent d'engager le combat. Grâce à cet aspect psychologique, les combattants Moulélé enchaînèrent rapidement des victoires, capturant villes et villages sans grande résistance. En quelques semaines, près de la moitié du territoire congolais était sous leur contrôle. Toutefois, certains groupes rebelles commirent des exactions massives, perpétrant massacres, tortures et viols, aussi bien contre les populations locales que contre les Européens restés sur place après l'indépendance du pays. En avril de la même année, un autre front insurrectionnel s'ouvre dans la partie est du pays. Mené par lui, Bidalira, Gastron Soumialo, Nicolas Olinga et Laurent Désiré Kabila. Ce soulèvement débute dans la région des Fizi Uvira, avant de se propager rapidement vers le nord Katanga en juin, les Maniema en juillet et les Sankuru en août. L'expansion atteint son apogée en août 1964. Lorsque le rebelle s'empare, le 5 août 1964, de Stanleyville, Kisangani, où elle établit son quartier général et forma un gouvernement sécessionniste baptisé République populaire du Congo, avec Christophe Mbenye comme président. Ce gouvernement rebelle fut reconnu par 7 pays, dont l'URSS et l'Égypte, qui y virent une opportunité d'affaiblir les blocs pro-occidentaux soutenant le gouvernement de Léopoldville. Face à l'ampleur de la menace et à la prise de contrôle de Stanleyville, le président Kasavubu Bouva alors chercher les voies et moyens pour vaincre cette rébellion. En septembre 1964, alors que Moïse Tshombe, ancien sécessionniste katangais, est rappelé à Léopoldville pour devenir premier ministre, le gouvernement congolais lance une vaste contre-offensive pour reprendre l'est du pays. Cette reconquête sera menée avec le soutien des mercenaires étrangers, parmi lesquels des anciens soldats SS, d'anciens gendarmes katangais et des pilotes cubains anti-castristes. Le 28 octobre 1964, alors que l'armée nationale congolaise ANC et les mercenaires avancent inexorablement vers Stanleyville, Christophe Mbenye prend une décision dramatique. Il annonce la prise en otage de tous les étrangers vivant dans la zone rebelle, menaçant de les exécuter si les États-Unis et la Belgique ne retirent pas leur soutien au gouvernement de Léopoldville. Cette prise d'otage justifie l'intervention militaire directe de la Belgique et des États-Unis. Le 24 novembre 1964, à la demande de Moïse Tshombe, les parachutistes belges lancent l'opération Dragon Rouge, un assaut combiné aérien et terrestre, visant la libération des 2000 otages européens détenus par le rebelle à Stanleyville. Grâce à cette offensive, les forces loyalistes parvinrent à reprendre Stanleyville et à démanteler le gouvernement rebelle. Quelques jours plus tard, une opération similaire, Dragon Noir, est menée pour reprendre la ville des polices, actuelle Iziro. Les mois suivants voient les démantèlements progressifs des rébellions. Face à la supériorité militaire des forces gouvernementales appuyées par le mercenaire étranger, les mouvements insurgés s'effondrent. Leurs principaux leaders prennent la fuite et l'exil dans divers pays. La chute des bastions rebelles marqua la fin de la rébellion mouléliste, bien que Pierre Moulélé continua ses activités clandestines avant d'être finalement capturé et exécuté en 1968 sous le régime de Mobutu. Les rébellions de 1963 à 1964 auront laissé derrière elles un bilan humain tragique, marqué par des violences de masse. Selon l'historien Benoît Verhagen, on peut classer ces exactions en 4 catégories. Les massacres systématiques après la prise des localités, les exécutions publiques organisées, les assassinats sporadiques et non contrôlés et les exécutions secrètes ciblées. La première vague d'exécution visait principalement des militaires de l'ANC, des fonctionnaires et des politiciens associés au gouvernement de Léopoldville. Environ 20 000 personnes auraient péri, décimant une large partie de l'élite politique et intellectuelle des régions sous contrôle rebelle. Finalement, ces rébellions, bien qu'ambitieuses et idéologiquement motivées, auront échoué en renverser les pouvoirs de Léopoldville. Cependant, elles marqueront durablement l'histoire politique et militaire du pays, servant des modèles pour d'autres insurrections à venir. La rébellion mouléliste fut l'un des épisodes les plus marquants de l'histoire post-indépendance du Congo. illustrant à la fois la lutte idéologique, l'influence du mysticisme et les violences qui ont marqué cette période. Malgré sa rapide expansion et le choix à maintenir son contrôle sur le territoire face à une intervention militaire étrangère massive, cet épisode marqua profondément l'histoire politique du pays et fut un des nombreux conflits qui jalonnèrent le premier décennie du Congo indépendant.
Un moment d'histoire, une création de ABA et RDC avec l'appui du programme Bokundoli.